Donc nous devons ne pas nous enfermer dans le point de vue interne de l'Église, mais les situer à leur place, penser que si nous disons et nous aimons dire que le Christ porte le salut du monde, c'est du monde réel, ce n'est pas d'un monde abstrait, un monde dans lequel il n'y aurait que des pécheurs d'un côté et des saints de l'autre. C'est un monde de gens qui souffrent, qui peinent, qui travaillent. C'est à ce monde-là que nous avons à annoncer l'Évangile. Et nous aimons voir saluer dans Jésus celui qui portait le péché du monde, les souffrances du monde, et qui a voulu être l'instrument de la réconciliation de Dieu avec le monde. Saint Paul nous parle de la croix de Jésus en disant « Dieu était là avec le Christ, se réconciliant le monde, tandis que Jésus mourait. » Ce souci que nous devons avoir du salut du monde, et le salut du monde, ce n'est pas simplement le salut éternel, il se joue dans les combats de chaque jour. C'est aussi la vie de chacun, la vie heureuse. Jésus a commencé son discours en disant « bienheureux », en annonçant des béatitudes. Nous sommes aussi comptables d'un bonheur que nous devons annoncer et essayer de répondre dans ce monde. Alors que ce soit tout particulièrement ce souci d'œuvrer dans le monde et tout particulièrement le devoir des laïcs chrétiens, c'est ce que nous dit le document sur l'Église quand il traite, là où il traite de l'Église, la Constitution, Lumen Gentium, au paragraphe 35 et 36, quand il parle de la fonction prophétique et royale des laïcs. C'est sans doute deux mots qu'il faudrait mettre un peu dans un langage moderne, plus moderne. Mais qu'est-ce que c'était que le prophète ? C'était quelqu'un qui se souciait du monde réel autour de lui et qui se souciait de s'adresser à lui. Donc nous avons à parler à ce monde, à lui donner les paroles d'Évangile qui peuvent porter remède aux maux dont souffre notre monde, surtout quand nous réfléchissons et quand nous voyons que ces maux sont d'abord des manques de solidarité, sont d'abord des manques de fraternité, que ces maux frappent d'abord les petits sur lesquels Jésus se penchait avec prédilection. Et voilà ce que nous avons à redire dans ce monde et à traduire aussi en actes. Bon, qu'est-ce que nous pouvons apporter à ce monde? Eh bien oui, nous soucier un peu du salut que j'oserais dire matériel. Bon, il est aussi spirituel en même temps. Quand on parle quand on voit que c'est la recherche du profit qui nuit avant tout, on voit bien qu'il y a quelque chose là de spirituel qui est en cause. Le salut, c'est peut-être parce que l'Église s'est occupée trop exclusivement du salut éternel, du salut purement spirituel, que ce monde s'est détaché d'elle. Pourtant, quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous voyons comment, par exemple, les ordres religieux ont été consacrés en grande partie à subvenir aux souffrances des gens, des petits, des malades, des mourants. Nous avons, à cet égard, nous n'avons pas à rougir de notre tradition catholique, chrétienne, mais nous avons à la renouveler, à voir ce que nous pouvons faire pour combler les attentes de ce monde. Nous parlons du salut. Où se passe le salut? Au ciel. Mais où est Dieu? Dieu est avec nous. C'est ce que nous apprend l'incarnation. Dieu a fait histoire avec nous en Jésus. Dieu s'est lié à nous. Et donc, le salut commence ici, ici. Jésus disait à ses disciples, le royaume de Dieu est déjà là, autour de vous. Il disait ça quand il avait produit un miracle et qu'il avait vu que l'Esprit Saint agissait dans ce monde. Le royaume de Dieu est là, pourquoi? Parce que de la souffrance avait été soulagé. Parce que de l'exclusion avait été vaincu. C'est là le salut. Il se joue déjà dans les choses de ce monde. L'éternité est là, présente dans le temps, puisque nous avons conscience d'être le temple de l'Esprit-Saint. Nous le lisons presque à chaque page quand nous ouvrons des épîtres de Saint Paul ou de Saint Jean. C'est donc là que nous avons à commencer à faire advenir le salut. Le salut dont nous devons acquérir une conscience de citoyens du monde. Peut-être devons-nous prendre la dimension politique du salut. Politique en ce sens que le salut nous demande d'agir dans la cité que nous habitons. De prendre à bras le corps les problèmes de la cité. Sinon, quand nous parlons du ciel, alors nous ne parlons plus qu'un langage abstrait. Il y a une parole très mystérieuse de Saint Paul qui nous dit qu'à la fin des temps, au dernier jour, Dieu sera tout en tout. Tout en tout. C'est absolument étonnant de voir Saint Paul pour nous dévoiler cet ultime mystère, utiliser une formule de la philosophie païenne, stoïcienne, de son temps. Dieu sera tout en tout. Oui, rien n'est extérieur à Dieu. Les souffrances que nous voyons autour de nous ne sont pas extérieures à Dieu. Et le salut se joue déjà là, à ce niveau. Répandre un peu de charité dans le monde, c'est cela, porter l'Évangile à ce monde. Autrement dit, comprendre que le salut se joue dans l'humanité, dans l'humanisation de la société et de l'homme. Quel est le désir de Dieu ? Ce n'est pas de sauver les meilleurs d'entre nous. Ce n'est pas de sauver quelques hommes dans le tas, quelques hommes plus croyants que d'autres, plus vertueux. Le désir de Dieu, c'est de sauver l'humanité entière qu'il a créée. Dieu veut sauver tous les hommes, dit Saint Paul. Donc, c'est l'humanité entière qu'il veut sauver. Voilà l'ambition de Dieu. Et donc, tous les problèmes humains sont pour nous des problèmes d'Évangile, des problèmes de notre foi, des problèmes auxquels nous devons chercher à appliquer l'esprit évangélique. Le salut se joue là dans l'hominisation, l'humanisation de l'homme. Troisièmement, comprendre la crise de notre temps. Ce que nous appelons l'incroyance qui se répand dans le monde, la religion qui se retire du monde. C'est un phénomène sûrement extrêmement impressionnant. Impressionnant qui peut nous faire peur, oui, nous faire trembler dans notre foi. Et peut-être avons-nous besoin de beaucoup de foi pour le voir dans sa cruelle vérité. Il s'est passé ceci que le monde qui, depuis qu'il est humain, croit en Dieu, ce monde actuellement réussit à se débarrasser de l'idée de Dieu. L'homme s'est affranchi de la loi de Dieu et même de la pensée de Dieu et même de la crainte ou de l'espoir du Seigneur. Et c'est donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous voyons cela, ce phénomène extraordinaire de l'homme qui ne vit plus, qui vit sans Dieu, sans se préoccuper de Dieu, tranquillement, sans Dieu. Et qui peut-être pourra dire, oui, qui, oh, peut-être bien que Dieu existe, oui, peut-être bien qu'il y a un Dieu quelque part, et peut-être à la rigueur, on lui rendra quelques hommages par sécurité, mais Dieu n'intéresse plus, ne compte plus pour grand-chose. La première fois. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce la foi qui se perd? Non, c'est la religion qui se perd, d'abord. Et la religion, c'est autre chose. La religion, c'est un ensemble, oui, de croyances, de pratiques, mais la religion est très liée à la société. C'est la religion qui fait le lien social. Dès le début, pourquoi les gens adoraient Dieu, cela les réunissait entre eux, et cela leur donnait plus de force pour affronter les tribus voisines. La foi en Dieu, la croyance, oui, était un point d'unification de la société, de la tribu. Et puis il est arrivé un moment où l'homme n'a plus besoin de faire appel à Dieu pour faire marcher les temps, pour obtenir la paix dans la société, pour réaliser ses entreprises de plus en plus diverses, pour partir à la conquête du bonheur, du plaisir, de la richesse. Et puis le monde s'est libéré parce que la religion impose, imprègne les structures de la société et fait peser une loi sur elle. Il est très instructif pour nous d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les révolutions arabes, que nous voyons un peu évoluer d'ailleurs maintenant, mais ces révolutions où l'on voit surtout des jeunes gens, des femmes, qui ont voulu se libérer du poids que les structures religieuses de la société faisaient peser sur elles, des entraves à la liberté. Alors, ce n'est pas gagné, car il y a aussi, la religion offre aussi une possibilité de structurer la société de manière identitaire. On voit la lutte qui se fait en ce moment dans les pays arabes sur ce point-là. Rien n'est encore joué. Notre monde occidental a été le premier à se libérer de Dieu. L'a-t-il cherché directement? Peut-être, je crois qu'il a voulu se libérer d'abord de toutes les entraves que la loi religieuse fait peser sur la société. Et ce que l'Église n'a pas compris. Et elle a cru qu'elle était rejetée par ce monde. Elle l'a été parce qu'elle-même défendait ses positions dans la société. Elle n'a plus guère de ses positions maintenant. Comment l'Église peut-elle agir sur la société? Voyez combien même nos papes et nos évêques ont essayé de faire que les lois de l'Église deviennent, en certains domaines, des lois de l'État. On a vu ça encore tout récemment dans nos pays occidentaux. Nous devons reconnaître la liberté de conscience, la liberté des individus, la liberté des sociétés et des États. Et je crois que si nous avons bien médité l'Évangile, nous voyons que Jésus n'est pas venu apporter des lois pour entraver la société. Lui qui a dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Et nous savons que le christianisme est parti à la conquête du monde en se libérant de la loi mosaïque, loi révélée, loi mosaïque. Et l'Église n'avait pas de loi, elle n'avait rien, elle n'avait pas de code. Bon, essayez de retrouver cet esprit de la liberté évangélique. Car toutes ces révolutions qui se sont produites dans la société occidentale se sont faites à cause des valeurs d'Évangile qui avaient pénétré l'esprit occidental. Et on le voit très bien encore quand on lit les philosophes du 18e, du 17e et du 18e siècle qui ne cherchaient pas à se débarrasser de l'Évangile alors qu'ils y trouvaient au contraire leur inspiration. Bon, il y a eu là une incompréhension cruelle entre l'Église et le monde. L'Église s'est sentie menacée et a préféré, n'a peut-être pas compris toutes ces aspirations des hommes à la liberté et les a condamnés. Et nous en sommes là maintenant avec cette séparation entre le monde et l'Église, et qui nous montre donc que nous avons à retrouver nous-mêmes ces idées évangéliques qui ont aidé les hommes à conquérir la vraie liberté. Les idées de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, l'amour des petits, le soin de ceux qui souffrent, tout cela, c'est évangélique. Et nous avons donc à retrouver tout cela, toutes ces valeurs que Gaudium et Spes a reconnu solennellement. C'est quand même nous devons une grande reconnaissance au Concile pour ce motif. Et nous avons toujours besoin de le relire pour comprendre ce monde qui nous déconcerte tant. Et ce monde où la liberté religieuse a fleuri parce que l'Église n'a pas su lui faire de place en elle.